Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Le fourgon de police attaqué dans le quartier des Tarterets. On est avec le commandant de police Frédéric. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Pour vous, c'est votre quotidien, les images que vous avez vues ?
Alors, pour moi où je travaille, non, ce n'est pas le quotidien, mais pour certains collègues, c'est un quotidien qui devient de plus en plus dangereux à cause d'individus qui sont en déshérence totale vis-à-vis de la République.
Nous allons en parler jusqu'à 14h30 et d'autres sujets, bien sûr, Amandine.
Et à la une, la contraception qui sera désormais gratuite en France pour les femmes jusqu'à 25 ans, et ce à partir du 1er janvier prochain. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure Olivier Véran, le ministre de la Santé. 3 millions de femmes sont concernées. La suite, deuxième jour du procès des attentats du 13 novembre, et la Cour poursuit l'appel des parties civiles. Aujourd'hui, 1800 parties civiles. L'audience a débuté il y a quelques minutes seulement. 4 départements toujours en alerte aux orages. Et il est tombé beaucoup de pluie hier à Agen, un record, hein, presque 130 mm de pluie en 24 heures, c'est du jamais vu. Heureusement, pas de victimes. Et puis, il faut le rappeler quand même, cette cérémonie d'hommage national qui aura lieu cet après-midi dans la cour des Invalides, hommage à Jean-Paul Belmondo, ce sera à 16h30. Peggy, je le disais, 4 départements en alerte orange. Encore, ça reste bien gris cet après-midi.
Oui, c'est vrai que c'est bien gris sur l'ensemble du pays avec quelques averses éparses, voire des orages localement entre les Pyrénées et le Nord-Est. Donc vous l'avez dit Amandine, les 4 départements sont en vigilance, qui sont en vigilance orange pour orages et pluie-inondation sont l'Ariège, la Haute-Garonne, le Gers et le Tarn-et-Garonne. Ça, ce sera plutôt cet après-midi, début de soirée, on attend de fortes pluies, donc soyez extrêmement vigilants. Et puis les températures, ça reste doux même si elles sont en baisse, de 22 à Cherbourg à 29 à Marseille, 24 à Bordeaux et 27 à Paris.
Merci Peggy.
Le convoi funéraire qui emmène Jean-Paul Belmondo jusqu'aux Invalides est en marche. Et il y a une série de voitures qui est en train de se diriger vers le dôme des Invalides, où Mourad Jabari nous disait tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de Français qui attendaient de pouvoir se recueillir sur le cercueil de Jean-Paul Belmondo. Et la cérémonie est à 16h30, mais manifestement le cercueil, je ne sais pas d'ailleurs s'il est avant la cérémonie, le public pourra se recueillir.
Ce sera après la cérémonie, à partir de 19h30.
Ce sera à partir de 19h30, mais à l'instant même, il y a quelques minutes, puisque Jean-Paul Belmondo a habité tout proche des Invalides, au Quai d'Orsay, eh bien le cortège s'est ébranlé et il y a là une série de voitures avec très certainement la famille, les proches de la famille, et la voiture qui contient le cercueil de Jean-Paul Belmondo, qui est escorté par les motards de la République et qui est en train, à l'instant même, d'arriver sur cette grande place devant le dôme des Invalides et qui va pénétrer à l'instant même derrière les grilles des Invalides pour pouvoir aller très certainement se mettre au cœur de la cour des Invalides. Je ne sais pas si on aura Mourad Jabari avant 14h30, mais vous pourrez évidemment réagir et donner votre sentiment, partager votre émotion sans doute sur celui qui nous a quittés en début de semaine. Merci Amandine.
Je vous écoute. J'allais dire à tout à l'heure, mais parce que je vous écoute.
Merci en tout cas et rendez-vous demain. Et nous allons commencer cette 7h30 avec les auditeurs en évoquant ce qui se passe au Tarteret.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Et nous sommes donc avec Frédéric, qui est ce commandant de police qui voulait réagir sur ces images absolument incroyables. Je disais tout à l'heure, c'est des images du Far West. Immédiatement, on pense à l'attaque des diligences quand on voit ces images-là.
Oui, tout à fait. Alors, ce qui est formidable, c'est que crescendo, on passe de plus en plus de caps qui sont très dangereux pour les policiers, mais aussi pour toute la population qui est autour. Parce que là, c'est vraiment un guet-apens et les 30 ou 40 individus qui sont là pour se faire du flic. Sauf que notre métier de base n'est pas là pour servir de punching ball à une frange de la population qui est en mal de quoi ? D'éducation, de respect des règles, du vivre ensemble. Et c'est une frange de la population, parce que je suis persuadé que la plupart des gens qui habitent dans ces quartiers ne sont pas mauvais.
Mais non seulement ça, mais souvent ce sont les premières victimes, les gens qui habitent là.
Sauf qu'ils sont pris dans un étau par des gens comme ça qui veulent faire régner une loi. Vous avez employé le terme Far West, c'est exactement ça. Et quand on sait la genèse de cette histoire, c'est quand même formidable. Les gens appellent pour un rodéo. Celui qui commet le rodéo, qui a failli renverser une personne sur un trottoir, est arrêté. Et qu'est-ce qui se passe? On veut libérer cette personne. Donc, on nous appelle d'un côté pour faire cesser une infraction qui était très grave et qui peut être très dangereuse. Et d'un autre côté, on veut nous empêcher de faire notre travail. Et comme je disais à Olivier, en corollaire de mon intervention, c'est que est-ce que, après ces faits-là, vous avez entendu qu'il y avait, je vais employer un terme assez fort, une expédition punitive? Absolument pas. Pourquoi? Parce que nous sommes à quelques mois d'une élection présidentielle. Et dans ce cadre, il ne faut pas faire de vagues, il ne faut pas mettre le feu aux banlieues pour éviter un vote extrême qui serait très préjudiciable à certains intérêts actuels.
Bon, alors ça, c'est évidemment une interprétation personnelle que vous faites. Elle est possible ou pas, je ne peux pas en juger.
Qui se base sur 25 ans de carrière dans la police nationale.
C'est ce que j'allais dire. Vous êtes quand même commandant de police. Vous êtes toujours en action, si j'ose dire.
Oui, tout à fait.
Et vous avez le sentiment que dans ces période-là, ce qui est terrible d'ailleurs, ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y aurait une gestion purement politique, politicienne, en l'occurrence du pouvoir, pour ne pas faire de vagues et ne pas, au fond, faire régner l'autorité de l'État en pensant aux échéances électorales.
Bien évidemment, et ça s'est vu avant chaque élection présidentielle. Pourquoi, la semaine dernière, on est allé annoncer des milliards à Marseille, alors que ça aurait pu être annoncé et fait bien avant, dès lors qu'il y a une dizaine de règlements de compte, enfin même 10, c'est déjà trop. Mais pourquoi attendre autant, et pourquoi attendre quelques mois avant une élection présidentielle pour mettre le paquet là-bas? Pourquoi ne pas le faire tout de suite?
Certains l'ont dit d'ailleurs, Emmanuel Macron est en campagne, et certains l'ont dit.
Oui, voilà, donc... Voilà, même eux le disent, donc il n'y a pas de souci là-dessus. C'est une interprétation qui est la mienne, certes, mais qui se base sur, comme je l'ai dit, 25 ans d'expérience.
Merci Frédéric, vous êtes commandant de police, je le rappelle, et je vous rappelle que le cercueil de Jean-Paul Belmondo est arrivé aux Invalides et que vous allez pouvoir donner votre sentiment sur cette période qui suit le décès de Jean-Paul Belmondo. Vous avez peut-être regardé d'ailleurs les films qui sont projetés à la télévision. Appelez-nous au 3210. Je salue Damien Béchiot qui est là. Il est 13h09.
Bonjour
je
Pascal, bonjour à tous les auditeurs.
L'équipe, Laurent Tessier, Olivier est là.
Évidemment.
Les nouveaux arrivants, si j'ose dire, au standard s'appellent Philippe, Victor et Florence.
Et surtout, bon anniversaire là. Pascal.
Oui, c'est
peut-être que les auditeurs peuvent appeler pour vous souhaiter un bon anniversaire aussi.
Arrêtez.
Bon, Pascal.
Soyez gentil. La pause, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
.fr.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
J'ai pris un engagement.
Pour votre anniversaire ?
Non, j'ai pris un engagement de jouer au Julien Courbet, de trouver une solution. Donc, notre camarade restaurateur qui a une possibilité d'engager
François,
un chef de rang pour 1700 euros net dans un quartier plutôt chic de Paris qui s'appelle le 6e arrondissement, rue du Cherche-Midi. Bon, on devrait quand même trouver d'ici 14h30. Appelez-nous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche un job à 1700 euros net dans la restauration qui est qualifié et qui peut aller travailler rue du Cherche-Midi?
L'appel est lancé, appelez-nous dès maintenant au 3210.
Enfin, si on ne trouve pas ça,
on fait quoi? On arrête tout?
J'allais dire, je reviens pas. Mais...
C'est risqué.
C'est très risqué.
Ne le tentez pas.
C'est pas possible quand même qu'on ne trouve pas une personne en France. C'est pas un petit salaire, 1700 euros net.
Nous avons 1h20
pour trouver la personne. Ça doit être 2200 euros brut.
Mais c'est notre mission. Nous allons appeler toute la France.
Je l'espère.
C'est le sujet qui vous fait réagir au standard en attendant. Un fourgon de police attaqué hier en fin d'après-midi dans le quartier des Tarterets à Corbeil-Essonnes. Les policiers se sont retrouvés face à une trentaine de jeunes. Ils ont été visés par des tirs de mortier, des jets de cocktails Molotov. Le fourgon a dû faire marche arrière. La police est-elle impuissante face à ces délinquants? Mathieu Vallée, l'un des responsables du syndicat indépendant des commissaires de police, était l'invité de RTL Midi.
Nos collègues sont de plus en plus confrontés à des scènes de guerre. À Marseille, entre les dealers lorsqu'ils essuient des tirs de Kalachnikov ou des prises à partie, dans les quartiers avec des cocktails Molotov et des attaques, comme le disait Pascal Pro, en règle de diligence quasiment. Donc nos collègues aujourd'hui voient leur métier changer.
Six jours de violence dans ce quartier, quelles mesures faut-il prendre? Nos policiers sont-ils civils en danger. Est-ce seulement un manque de moyens? 32 10 3 2 1 0.
Bertrand est avec nous. On avait un commandant de police. Bertrand est gendarme à la retraite à Dieppe. Bonjour Bertrand.
Bonjour Pascal.
Votre sentiment?
Encore?
Oui.
Encore,
oui, encore.
Et toujours. Je veux dire, les actualités ne parlent. Je ne veux pas dire ne parlent que de ça, puisque ça se produit. Mais c'est récurrent, c'est redondant, c'est quelque
mais
chose
mais qu'est-ce
qui devrait.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois qu'on a dit ça, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Alors, il faut arrêter de parler de petits trublions, comme on entend parler certains personnages politiques, hein, qui traitent ces gens-là de trublions.
Oh, ça, j'ai l'impression que aujourd'hui c'était le mot de sauvageon il y a quelques années, mais
sauvageon,
j'ai l'impression quand même que le
est
moins dans le déni au moins qu'il y a quelques années. Mais en revanche, les solutions, personne ne les apporte. Je ne les entends pas en tout cas.
Ben disons, il faut peut-être revenir à d'autres moyens, à savoir qu'on parle de scènes de guerre. Ben, mettons des militaires avec les policiers.
Et les militaires ne sont pas là pour faire le maintien de l'ordre, c'est compliqué. C'est compliqué. Ils peuvent être là pour assurer une protection, une surveillance, comme ça se passe dans les gares, mais ils ne sont pas là pour assurer le maintien de l'ordre. Ils ne sont pas formés à ça, il faut des professionnels.
J'ai le souvenir de militaires qui avaient protégé le port de Tahiti parce que des dockers étaient très violents et s'en prenaient très violemment à des gendarmes. Ça n'a pas duré longtemps quand les militaires se sont défendus, hein, parce que effectivement ils avaient la moelle. Disons que ils n'ont pas hésité à foncer dans le tas. Ceci étant, les policiers sont armés. Ce que je déplore, comme je l'ai dit à Olivier tout à l'heure, il vaut mieux faire le boucher que le veau. Dans un certain moment, je crois qu'il va falloir les sortir. Et puis en étaler un ou deux, au moins ceux-là seront identifiés.
Bertrand, je peux pas. Quoi, je peux pas. C'est très délicat sur une antenne comme RTL de vous laisser dire qu'il faut. Que les policiers
mais
répondent.
Ils se défendent, mais
j'entends bien.
Oui, mais se défendre, c'est quoi? Se défendre comment? Avec quoi? Avec un petit flashball, un petit machin, un petit truc gentillet qui les chatouille sous les bras? Non, si jamais ils se font tirer au mortier d'artifice. On a vu des gens qui ont été brûlés dans des voitures.
Un flashball, c'est pas gentil, mais j'ai cité la scène de Beckner. Je ne vais pas parler tous les jours de Beckner parce qu'on va penser que je suis l'attaché de presse de Beckner. Mais il y a effectivement une scène, moi, qui m'a sidéré. C'est-à-dire que la police intervient dans une cité et elle est nez à nez avec des jeunes. Et effectivement, les jeunes, ils sont 50, peut-être 60, en train d'essayer de pousser, de faire pression sur les policiers. Les policiers les tiennent en joue avec leurs armes, mais évidemment ne tire pas. Et les jeunes savent que les policiers ne tireront pas aussi. C'est important dans le rapport de force. Je pense que les policiers ont raison de ne pas tirer. Ils ont raison de ne pas tirer. Ils utilisent la dissuasion, parce que si vous commencez à tirer sur des jeunes, ça va être compliqué en France. Mais il y a peut-être d'autres solutions, me semble-t-il, à trouver. Ces solutions, je vous les demande.
C'est passé déjà par l'éducation. Alors l'éducation.
Oui, mais ça, c'est à long terme.
Oui, mais maintenant, je veux dire, c'est trop tard.
C'est pas trop tard. Il faut reprendre l'éducation, certes, mais à court terme, on fait comment?
À court terme, c'est la répression pure et simple, que la justice, dès lors qu'on lève la main sur des policiers, surtout de cette manière-là, qu'on les mette à l'ombre pendant quelques mois.
Je vous rejoins. Effectivement,
Quelques mois,
tu touches un policier de près ou de loin, il y a des peines planchées et ces jeunes gens sont à l'ombre pendant un certain temps.
Voilà,
là, vous avez raison.
Mais pas un bracelet électronique, hein.
Mais vous avez raison. Il faut effectivement une réponse pénale sans doute plus forte.
Voilà, il faut absolument en arriver à ce que le métier de policier et gendarme soit sanctuarisé et que on n'ait pas à taper, qu'on n'ait pas le droit de se payer un policier ou un gendarme.
Eh bien, vous avez raison, Bertrand, et ça peut être efficace.
Voilà, mais qu'on construise des prisons, allons-y.
Il faut 40 000 places. Il faut 40 000 places. Tous les experts s'accordent à dire qu'il faut 40 000 places aujourd'hui. Parce que tu ne peux pas mettre les gens en prison.
On en fait 60 000, comme ça on aura de la marge.
C'est pas simple, manifestement, parce que quand tu veux construire une prison, personne n'est d'accord. Ni le maire qui accueille la prison, ni les gens qui sont autour et de ça. C'est très compliqué. Hein. C'est pour ça que. On est dans, alors au-delà de l'idéologie, hein, parce que parfois effectivement certains gouvernements n'ont pas voulu construire des prisons, mais ce n'est pas aussi simple qu'on le pense.
Non, mais je crois aussi qu'il y a certains se glorifient d'avoir fait de la prison. Si parfois les prisons étaient, je ne connais pas le mode de vie en prison. Je m'en garderai bien de tenter de vouloir le connaître. Ceci étant, on a le sentiment que pour certains, c'est Club Med. Bon, ils sont nourris, logés, blanchis, ils y cantinent pour certains. Ils ne payent rien et c'est nous qui payons pour eux. Donc pourquoi pas quand le gars il a des biens ou le peu de biens, etc. Que s'il a été mal éduqué, que les parents payent la prison. Et puis je pense que il passera la boîte à ramollir en revenant. Ou peut-être qu'on lui fera payer le loyer.
Bertrand, je vous remercie. Là où je vous rejoins, et effectivement, il faut sanctuariser, c'est le mot que vous avez utilisé, c'est un joli mot d'ailleurs. Et le métier de policier, il faut vraiment le protéger en France. Et ça, c'est incontestable. Et celui qui s'attaque à un policier doit savoir qu'il joue gros. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ce soit le cas. On va marquer une pause. Il est 13h18. Il y a plein de sujets et notamment celui-ci qui nous tient à cœur. Si vous souhaitez travailler dans Paris pour 1 700 € net et être chef de rang dans une jolie maison de la rue du Cherche-Midi, appelez-nous.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur
d'alcool.
Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier.
Vous pouvez réagir au procès des attentats du 13 novembre 2015 qui s'est ouvert hier à Paris. Une première journée marquée par les provocations de Salah Abdeslam. Il s'est présenté comme un combattant de l'État islamique. Le principal accusé a ensuite reproché à la justice française de traiter les accusés comme des chiens. Thierry est l'un des rescapés du Bataclan. Écoutez sa réaction.
Bah, il a commencé à faire le mariole, comme on dit. Moi, je suis combattant, etc. Il y a certaines personnes derrière moi qui étaient un peu plus touchées. Des gens qui ont perdu un être cher, hein. J'ai eu beaucoup d'émotions.
Et si vous voulez réagir à ces propos, 3210, 3210 sur votre téléphone.
Nous sommes avec Hamid, qui est un ancien policier. Bonjour Hamid.
Allô.
Oui, bonjour Hamid, et merci d'être avec nous.
Bonjour Monsieur Pro, une fois de plus je vous appelle, et moi je rejoins l'auditeur précédent, prénommé Bertrand. Hein. C'était ça, hein, je crois, Bertrand. Hein.
Exactement, ouais. Oui.
Bon, moi, il n'y a plus de cadeaux à faire. Maintenant, c'est l'armée qu'il faut sortir hein, dans ces banlieues-là. Hein. Dans ces banlieues et ailleurs. Hein. Et puis, vous aurez remarqué, comme moi, même si ça choque ce que je vais dire, ce sont toujours les mêmes origines ethniques qui sèment le trouble dans ce pays, dans les banlieues.
Là, vous savez pas qui tenait. Vous savez pas qui tenait les armes ou les tirs de mortier.
On voit quand même que les mères de ces jeunes-là, excusez-moi, elles sont pas d'origine celte, hein, excusez l'expression. Moi, je suis moi-même d'origine algérienne, hein, je le dis parce que mon nom, c'est Saïdi. Hein, mais on voit que ce sont toujours les mêmes, que ce soit à Marseille, à Corbeil-Essonne, à Villeneuve-Saint-Georges.
Hamid, alors c'est intéressant ce que vous dites. Hamid, vous dites que vous êtes d'origine algérienne. Vous êtes sur le sol français depuis toujours ?
Comment ? Je suis né en France.
Vous êtes né en France ?
Mon père était kabyle, il était arrivé en France en 1952, il est décédé maintenant, et ma mère était française.
Alors comment vous expliquez, votre père était né effectivement quand l'Algérie était la France, hein, quand elle était un département, donc c'est effectivement assez différent. Mais comment vous expliquez l'assimilation a marché en France, en gros, jusque dans les années 80, en gros, et que depuis cette troisième ou quatrième génération a plus de mal à s'assimiler, d'ailleurs elle ne s'assimile pas forcément, et à entrer en hostilité avec notre modèle, le modèle occidental.
Tout simplement pour une chose, parce que l'État a baissé les bras depuis le 10 mai 1981. Vous connaissez cette date, le 10 mai 1981 C'est l'élection de M. Mitterrand.
Mais qu'est-ce qui a changé selon vous?
Attendez, moi je suis rentré justement dans la police en 81, le 3 mars 81, juste deux mois avant l'élection de M. Mitterrand. Et tout de suite, on a eu tous ces mouvements qui se sont mis en route déjà post-68ard, avec SOS Racisme et tous ces mouvements-là qui ont suivi, qui ont tout de suite commencé au nom de la liberté, fallait tout laisser faire dans ce pays. Et puis voilà où on en est arrivé.
Mais là, ça n'a pas de rapport avec l'ethnie.
Je vais vous dire, il y avait déjà quand même des problèmes avec des gens d'origine maghrébine et africaine dans les banlieues, mais c'était quand même beaucoup moins évident, parce qu'il y avait quand même une justice avant mai 1980, avant que la gauche n'arrive au pouvoir. Mais alors, mai 81, moi j'ai commencé à le constater là, dès mes premières années de jeune policier, le laxisme a commencé à s'instaurer. Mais il a rampé, et on en est arrivé là.
J'entends ce que vous dites, mais pourquoi, bien selon sûr. Vous, il a rampé? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un changement de politique?
Écoutez, monsieur Pro, quand même, vous qui êtes journaliste et qui connaissez beaucoup de choses, vous avez quand même bien vu que dans les années 80, dès que la gauche est arrivée au pouvoir, on a baissé les bras sur plein de choses, et principalement sur le régalien. Sur le régalien, on a baissé totalement. On a commencé.
C'est-à-dire que vous trouvez que la gauche est plus laxiste, voilà, sur les questions de sécurité, de justice, pourquoi pas, et qu'elle préfère toujours une vision sociale pour expliquer pourquoi les jeunes, par exemple, sont en difficulté, plutôt qu'un côté plus répressif.
Ah oui, mais attendez, c'est une évidence que la gauche, elle est allergique, comme on disait quand j'étais dans la profession, au bleu marine.
Elle l'était d'ailleurs, la gauche républicaine, parfois, des gens comme Ségolène Royal. Ça dépend qui, Ségolène Royal, par exemple, était assez ferme là-dessus.
Quand on en entend encore certaines, je crois que c'est Sandrine Rousseau qu'elle s'appelle, quand on l'entend parler de la police, excusez-moi, mais on sent vraiment qu'elle est allergique aux flics.
Non, mais c'est vrai, vous avez raison de dire que la gauche, globalement, a souvent eu un problème avec la sécurité. Ça a quand même changé aussi.
Ça n'a pas changé beaucoup. Moi, je vais vous dire une chose. J'étais victime d'une agression quand j'étais policier. Quand je suis passé au tribunal, comme j'ai un nom à consonance algérienne, comme je vous l'ai dit, on n'a pas accès sur le racisme. Mais j'aurais eu un nom d'origine bien française, croyez-moi qu'on m'aurait tout de suite taxé de flic raciste, parce que j'avais été agressé par un jeune d'origine africaine. Voilà.
Merci, Hamid, de ce témoignage.
Vous savez, moi, ce que je voudrais... Enfin, là, je vais peut-être encore faire hurler dans les chaumières, mais tous ces jeunes d'origine bien souvent africaine qui pourrissent la vie du quotidien, ces jeunes-là, moi, je les invite à regarder le film Le Professionnel avec l'immense monsieur Belmondo, et qui regardent comment ça se passe dans leur pays, là-bas.
Leur pays, c'est ici.
Oui, mais attendez, leur pays, c'est ici, mais attendez, faut aussi arrêter à dire qu'ils sont français. Les Miguel, les Paolo, les Giuseppe, les Nguyen, ils sont français aussi, et il n'y a pas de problème avec ces gens-là. Alors il faut aussi arrêter un moment de dire qu'ils sont français.
Ils le sont, mais...
C'est pour ça que je reviens à mon discours primitif. C'est toujours l'origine ethnique de ces gens qui nous cause problème. Il faut appeler un chat un chat. Il ne faut pas avoir peur d'appeler un chat un chat. Excusez-moi, je m'emporte un petit peu, mais...
Non, vous emportez pas. Ce qui est difficile, fait, dans ces discussions-là, c'est la généralisation. C'est ça qui est difficile. On ne peut pas forcément généraliser, dire toute une type de communauté pose problème et une autre communauté, en l'occurrence quand vous dites les Paolo et les Miguel, vous sous-entendez que la communauté ou portugaise ou chinoise, pourquoi pas, ne pose pas de problème et que c'est une type de communauté qui pose toujours les mêmes problèmes. C'est ça que vous dites au fond.
C'est vrai, ce sont toujours les mêmes.
Et c'est là que je dis attention à ne pas généraliser et attention à être modérateur en tout cas, mais même si faut, c'est toujours un chemin entre ne pas être dans le déni. Ne pas être dans le déni, mais en même temps, faisons attention, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont sans doute d'origine de ces communautés, et qui ne se reconnaissent pas dans ce que vous dites, ni dans ce qui se passe au Tarteret. Et qui disent, une nouvelle fois, c'est nous qui allons être montrés du doigt et stigmatisés, selon un mot que j'aime pas beaucoup, mais bon, je l'ai utilisé quand même.
Moi, je peux même vous dire une chose qui est absolument vraie. J'ai habité, à un moment donné, dans une cité plus ou moins, et on avait une dame d'origine africaine dont je ne dirai pas son nom.
C'est mieux pour l'antenne.
Cette dame, un jour, elle l'a dit, moi j'ai horreur de ma couleur de peau quand je vois ce que certains font dans mon pays, dans ce pays. Et je vous assure, monsieur Pro, que je meurs en l'instant, je vous assure que c'est vrai ce que je vous dis.
J'espère que vous ne me racontez pas de salade.
Écoutez, je peux même vous le dire.
Si cette dame, elle écoute,
peut-être qu'elle se dit, tiens, je sais qui est en train de dire ça, c'est monsieur Saïdi, et voilà, et si si elle écoute RTL. Et je vous jure que c'est vrai. Et c'était une commune où j'ai été flic 31 ans, où il y avait aussi pas mal de problèmes avec des jeunes de ces origines-là. Hein, Villeneuve-Saint-Georges, pour ne pas la nommer, cette ville. Et c'est vrai.
Bah, merci.
C'est des villes qui deviennent vraiment... Mais ça devient invivable dans ces villes. Invivable.
Merci, Hamid. Vous habitez où dans l'Aube ?
Dans l'Aube, je suis à Aix-en-Othe. Enfin, moi, c'est-à-dire que je vis à l'année dans un camping-car.
Ah
et
bon,
j'ai élu domicile à Aix-en-Othe, dans cette commune de l'Aube. Voilà.
Ah, c'est original, dites donc, comme
bah
mode
oui,
de
bah
vie.
Oui. Bah oui, bah c'est sympa. C'est... Enfin bon, de temps en temps, j'ai quand même des amis qui m'en reçoivent, bien sûr. Mmh, mmh. Mais oui, j'ai choisi de vivre dans un camping-car. C'est sympa aussi.
Et
c'est
vous
sympa.
Baladez comme ça parfois en France ?
Ouais, un petit peu. Oui, je me balade un petit peu. Oui, comme je suis aussi passionné de chemin de fer, je vais souvent faire des tours dans des endroits où il y a du ferroviaire. Voilà.
Bah, merci voilà. Beaucoup, Hamid, de ce témoignage. Il est 13h28. On va continuer sur Corbeil-Essonne et puis après, on pourra parler d'autres sujets. Jean-Paul Belmondo, je l'ai dit, ce restaurateur à qui on cherche un chef de rang. Et puis, il y a un sujet, moi, qui m'intéresse, le CSA, qui demande aux médias audiovisuels de décompter les prises de parole d'Éric Zemmour. Il serait un acteur du débat politique national. C'est assez intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez, par exemple ? Tous les éditorialistes, maintenant, on doit décompter leur temps de parole. C'est étonnant de la part du CSA. Appelez-nous au 3210.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et je découvre la grande photo qui est devant les Invalides. Photo de Jean-Paul Belmondo. Sourire avec de la barbe et une casquette. La cérémonie est à 16h30. Il y aura un film notamment qui durera précisément 23 minutes et 49 secondes. Film qui a été commandé par les équipes de l'Élysée et qui est une série des meilleures scènes de Jean-Paul Belmondo à travers toute sa filmographie. Donc j'imagine ce document va être absolument formidable à voir. C'est une compile, c'est un florilège du meilleur Belmondo. Alors je pense qu'on retrouvera évidemment la scène culte avec Claude Lelouch. Et puis, il y a une autre scène que j'ai vue dans Le Professionnel qui m'a amusé, que vous avez peut-être vue, lorsqu'il s'en prend à un officier de police qui avait giflé, je crois, ou sa compagne ou son épouse. Et il dit « Le croissant, c'est pour mon ami » en sortant du bar. C'est Bernard-Pierre Donadieu à qui il donne une claque. « Le croissant, c'est pour mon ami ».
Et vous pouvez rendre hommage à Jean-Paul Belmondo dès maintenant au 3210. C'est sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. Nous attendons également sur d'autres sujets comme ce chiffre, 1 million d'offres d'emploi qui ne trouvent pas preneur. Comment est-ce possible ? De nombreux secteurs ont aujourd'hui des difficultés de recrutement. François est restaurateur à Paris et il doit fermer faute de personnel.
J'offre un poste uniquement du matin de 9h30 à 16h30, du mardi au samedi, 1700 euros net. Je trouve personne.
Chef d'entreprise, êtes-vous dans cette situation ? Des postes sont-ils à pourvoir depuis plusieurs semaines, plusieurs mois ? Venez témoigner dans l'émission. Mais alors, que faut-il faire ? Augmenter les salaires ? Dominique Carlac, la vice-présidente du MEDEF, était l'invitée de RTL Midi.
Il faut être attractif dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il faut que les gens se plaisent quelque part et que les conditions de la collaboration plaisent aux deux parties, c'est-à-dire et à l'employeur et à l'employé. Alors là, il y aura bien évidemment une dimension salaire, mais pas que. On se rend compte que l'offre de M. Gagnère, travailler de 9h30 à 16h pour 1700 euros net, il n'y a probablement pas que la question du salaire qui fait l'attractivité du poste. Il y a d'autres choses qu'on peut améliorer sur le marché de l'emploi.
Et si l'offre de François, restaurateur à Paris, vous intéresse, appelez-nous dès maintenant au 3210.
Et on va. François, il est là d'ailleurs, il est toujours avec nous, François.
Oui, tout à fait.
Chef de rang, c'est quel profil ? C'est quel âge, d'abord, a priori ?
Alors, pour nous, véritablement, il n'y a pas de profil précis. C'est-à-dire que je ne suis pas ni sur la couleur de peau, ni sur l'âge, ni sur le sexe. Il n'y a pas de souci.
Mais l'expérience, quand même ?
Mais l'expérience. C'est-à-dire qu'on est sur une cuisine de produits, une cuisine bistronomique, où effectivement, ce qu'on veut, ce n'est pas des porteurs d'assiettes, c'est des porteurs de bonheur. C'est des gens qui aiment les gens. Donc, qui ont avant tout cet intérêt-là de faire plaisir et après de mettre en valeur le producteur avec qui on travaille, donc une connaissance du produit. Tout ça, on forme, mais il faut trouver les bonnes personnes pour ça.
Donc, il faut savoir bien se présenter, j'imagine, avoir un contact facile avec la clientèle, avoir un bon niveau de culture générale, peut-être, pour entamer une conversation avec les clients et donner une image sympathique de soi-même.
C'est ça. On est là, surtout après Covid, pour donner du bonheur aux gens. Et donc, on veut des gens qui aiment leur métier. avant tout.
Un homme ou une femme ?
Aucun souci là-dessus. Il y a pas de débat sur ça.
Bon, bah, écoutez, je pense qu'on va trouver avant 14h30, je l'espère quand même. 1 700 euros, chef de rang, appelez-nous. Et pour le moment, on continue sur Corbeil-Essonne et sur ce qui s'est passé au Tarteret. On est avec Olivier qui habite dans Lyon. Bonjour, Olivier.
Oui, ben moi j'aurais deux propositions si on peut se permettre ça. C'est que la première, il faudrait de la présence. La présence, oui, pas. Peut-être par l'armée, mais pas pour faire du tir au pigeon. Parce que quand vous avez une descente de police ou gendarmerie, que vous avez des, comme ils appellent ça, des chauffeurs, et puis que bah, ces fameux policiers ou gendarmes sont déjà repérés, et une fois repartis, eh bien, ça recommence. Donc, si vous aviez déjà des gens qui font des bonnes rondes, je veux dire, constamment, bah, je peux dire que déjà, ça pourrait déjà éventuellement avoir un petit peu plus, apporter un peu plus de sérénité. Et puis, pour avoir fait l'armée, je peux vous garantir que quand vous êtes à débarquer à une dizaine de militaires, c'est autrement vu que, j'ai rien de, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est autrement vu qu'une brigade de gendarmerie ou police. Et puis le deuxième point, c'est peut-être les sanctions. Alors j'entendais, oui, des prisons, mais oui, il y a certainement l'éducation, mais dans un premier temps, peut-être leur faire voir autre chose que la vie, un petit peu la dureté, parce que moi je suis en Bourgogne, je peux vous garantir que bah, vous les isolez dans le fin fond du Morvan, ou alors, je sais pas moi, dans des endroits bien bien solitaires pour éventuellement bah, des TIG, un nettoyage de forêts, d'affouages ou de cours d'eau. Là, ça pourrait peut-être éventuellement leur donner à réfléchir, peut-être, hein, réflexion, parce que c'est bien beau de repeindre ou de nettoyer des bancs, mais en fait, ils sortent jamais de leur cité, ces gens-là, quasiment.
Mais oui, mais oui. J'entends ce que vous dites. Alors, mais après, la difficulté, c'est de trouver les bonnes solutions, Olivier.
Ah bah oui, mais après, je ne comprends pas là. C'est pareil, on a pléthore de candidats qui vont se mettre en avant pour la présidentielle. Et puis, j'ai l'impression que c'est un sujet qui va peut-être prendre le haut de l'affiche pendant un certain temps, mais ça va faire pchit comme d'habitude, quoi. C'est le problème, c'est que bah il y aura pas grand chose de fait au bout.
Mais vous, votre proposition concrète
là actuellement,
oui, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous?
Bah tous ces jeunes là, faut les isoler, et puis faut encore une fois, faut
ça veut dire quoi, les isoler, les mettre en prison?
Non, pas du tout. Non, mais c'est trop facile. Je veux dire, faut les isoler.
Ça veut dire quoi, isoler?
Eh bien, vous les emmenez fin fond du dans un carrément. Vous les sortez carrément de leur façon de vivre. Vous leur apprenez un petit peu ce que c'est que la vie autrement.
Mais comment? Bah, j'entends tout ce que vous dites, mais comment vous faites ça concrètement? On est dans un état de droit. Donc comment vous faites pour sortir, comme vous dites, des jeunes? Parce que ça, les élever à la dure, qui les élève à la dure, dans quel cadre, c'est quoi votre...
Je ne dis pas de revenir au bail de Cayenne, mais il y a un moment, il faut peut-être un petit peu plus de sévérité, parce que sinon...
Mais j'entends tout ça. Il faut que ça s'incarne, si j'ose dire, ou que ça se matérialise plus exactement, dans un projet précis.
Oui, d'accord, mais déjà la précision au départ, c'est peut-être déjà de leur reapprendre simplement la vie.
Qui leur apprend la vie?
Ah ben, théoriquement, c'est les parents.
Ah oui, mais oui, puisque vous les sortez, qui s'occupe de ça?
On part de très loin. Donc, il y a un moment, on ne va pas non plus se substituer aux parents. Mais bon, surtout qu'on est, face à des jeunes adultes, des vieux ados. Enfin, on appelle ça comme on veut. Mais c'est tellement... il y a un moment, il faut quand même essayer de... Je ne sais pas, il va falloir quand même sérieusement peut-être se pencher sur ce problème. Parce que depuis, je ne sais pas si c'est l'effet M. Macron à Marseille, mais depuis 15 jours, là, depuis une semaine, ça n'arrête pas tous les deux jours.
Donc, là, je ne sais pas s'il y a un rapport de cause à effet, je ne crois pas. Merci en tout cas, Olivier. Oui. Merci.
Merci à vous.
Merci de votre témoignage. On prendra un dernier peut-être témoignage, qui est celui de Christophe, tout de suite après la pause. J'aime bien quand vous mettez la musique du professionnel.
C'est vrai, vous voulez?
Oui, j'aime bien.
Allez, c'est votre cadeau d'anniversaire, j'aime Pascal. Bien.
Et alors, j'ai appris que cette musique avait déjà servi à un film en 71, un film polonais, que ça n'avait pas beaucoup marché, que Ennio Morricone peut-être l'avait reproposé, ou était-ce la production pour le professionnel qui était venu chercher Ennio Morricone et qui avait une nouvelle adaptation. Alors, en plus, cette musique, elle est associée aussi à une pub, disons-le.
ou on préfère le film?
Bah, et comment? Le film avec Jean-Paul Belmondo qui est formidable à la fin. J'ai regardé.
Pourquoi il va pas plus vite?
Pourquoi il va pas plus vite? Bah, pour monter dans l'hélicoptère. Et oui, moi je crois toujours qu'ils vont pas le tuer.
Moi aussi.
Et l'échange entre Jean-Louis Richard, qui est un comédien merveilleux, et Jean de Sailly, qui est le ministre, il faut le stopper. Mais monsieur le ministre, c'est vous qui prenez la décision, monsieur le ministre.
Vous le faites bien, Pascal.
Jean-Louis Richard, qui était marié avec Jeanne Moreau, qui est un comédien formidable, et qui dit, monsieur le ministre, ma démission sera sur votre bureau tout à l'heure, j'expédie les affaires courantes. Il faut le stopper. C'est vous qui décidez. À tout de suite.
Au débat en appelant le 3210.
50 en magasin.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier. Nous vous attendons sur d'autres sujets au standard. Le CSA demande aux médias audiovisuels de décompter les prises de parole d'Éric Zemmour. Il serait un acteur du débat politique national. Éric Zemmour parle dans un communiqué de censure. Je ne me tairai pas, a déclaré le polémiste. Comprenez-vous cette demande du CSA? 3210. Et puis il restera jamais le magnifique et comme vous aimez la musique, Pascal. Le pays rend aujourd'hui un hommage national à Jean-Paul Belmondo, légende du cinéma. La cérémonie débutera à 16h30 dans la cour des Invalides. Venez rendre hommage à Bébel.
Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur?
Non.
Un voleur, de temps en temps, ça se repose.
Hommage national à Bébel, nous vous attendons au 3210 et sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole.
Nous sommes avec Christophe. Bonjour Christophe.
Bonjour Pascal. Du Audiard tout craché, hein?
Ben oui, du Audiard, bien sûr. Michel, oui. C'est un génie.
Formidable.
Christophe, que vous intervenez sur ce qui s'est passé au Tarteret avec ce fourgon de police attaqué dans le quartier. Quel est votre sentiment?
Tout à fait. Non, on est tous choqués de toute façon, mais j'entendais vos les interlocuteurs avant. L'armée, c'est pas une solution. Moi, ma solution à moi, elle est toute simple. Je pense qu'il faut revenir, réintroduire le service civique obligatoire ou le service militaire obligatoire. Militaire, ça fait un peu peur. Mais réintégrer ces jeunes en perdition dans ce cheminement comme on a fait notre armée il y a 40 ans. On a connu des illettrés. On a connu des gens sans métier. Et l'armée avait cette possibilité, moi, personnellement, à les réintroduire dans un chemin de respect, d'obéissance ou de travail. C'est mon profond sentiment.
Mais oui, mais alors, un service civique, ça prendrait quelle forme, combien de temps et comment mettre en place?
De toute façon, il n'y aura pas beaucoup de solutions, hein, croyez-moi. Mmh. Entre l'armée ou mettre n'importe quoi, ces jeunes sont en perdition. D'une manière comme d'une autre, ils seront obligés d'y aller. Mmh. Ou on sera obligé de les obliger à y aller. C'est peut-être dur, il faut une solution, de toute façon. J'en vois pas d'autre.
Bah merci, merci.
Non, mais, et puis se mélanger avec d'autres personnes, je veux dire. C'est vrai qu'il y a une culture musulmane que je respecte énormément. Mmh. J'ai plein d'amis musulmans. Qui sont choqués de ce qui se passe aussi. Faut pas croire, mais c'est une minorité qui s'allie un peu l'ensemble des musulmans. Parce que c'est une belle culture, faut pas rêver. Mais de se mélanger avec d'autres personnes, ça peut le faire que du bien. Bien sûr, après, c'est un autre débat, hein, mais faut approfondir ce sujet-là.
Merci Christophe, merci
je
beaucoup.
Je vous en prie Pascal, je vous souhaite une très bonne journée. On est passé avec mon épouse, on revient sur Marie-sur-Loire,
oui.
Rue Saint-Père. On avait... ce monument qui était Belmondo, qui me fait beaucoup pleurer,
oui.
Parce que c'était une très et belle jolie personne. Et dernière anecdote, on était 2 ans à Villeurville, là il était tourné un Saint-Jean-l'Hiver, qui est extraordinaire, on a parcouru de tous ses pas avec Jean Gabin, c'était vraiment très beau. Voilà,
mais vous avez parlé de la rue des Saint-Pères, c'est ça?
Oui.
Vous êtes passé rue des Saint-Pères, là où habitait Jean-Paul Belmondo il y a encore 3-4 ans? Oui.
Il y a un quart d'heure, je suis passé.
Oui, c'est ça. Alors, il a déménagé de la rue des Saint-Pères.
Je sais, on a tourné en rond.
Voilà, il a déménagé de la rue des Saint-Pères il y a 3-4 ans. Il habitait au début de la rue des Saint-Pères, où habite également d'ailleurs Bernard Tapie, mais dans la deuxième partie de la rue des Saint-Pères.
Et tout près de la rue Verneuil.
Voilà, tout près de la rue de Verneuil, effectivement.
À Gainsbourg.
Exactement, la rue d'Erneuil où Gainsbourg était. Et puis il était parti au Quai d'Orsay ces dernières années. Et oui, il y a peut-être 3 ou 4 ans de cela. Merci en tout cas, Christophe, de votre témoignage. 13h46, nous partons avec Olivier sur la page Facebook.
Bonjour à tous et joyeux anniversaire Pascal.
Vous êtes très gentil.
57 ans, je vais être très honnête, je pensais que vous étiez un poil plus âgé que ça quand même.
Oui,
Pascal.
Bien sûr, vous pensiez que j'avais 82, 83.
Oui, dans ces eaux-là.
Moi, quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous êtes plus jeune en revanche.
Ah oui, bah on a 40 ans d'écart Pascal, et oui, un siècle.
Il faut le stopper. Il faut le stopper, bien sûr.
Bon, Seb réagit.
Vous savez que je vous aime beaucoup, pardon, Olivier.
Ah, moi aussi, Pascal, merci beaucoup.
Ça va alors.
Seb réagit à l'instant sur Facebook à l'intervention d'Amidi il y a quelques minutes. Merci, vous avez dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, nous dit-il. Pour Mani, ça ne sert à rien d'arrêter ces délinquants parce que de toute manière, les avocats et les juges les défendent. Alexandre partage ce point de vue. La police n'est jamais soutenue par la justice. Paul nous dit le rapport de force sera éternel. Et on conclut avec J'aime, la délinquance a toujours existé, mais elle est amplifiée et entretenue aujourd'hui par les réseaux sociaux.
Merci Olivier. On va avoir une vraie surprise dans cette émission, figurez-vous, parce qu'on parle beaucoup de Jean-Paul Belmondo et le cercueil est arrivé aux Invalides. Mais je crois que nous sommes en ligne avec Nicole Calfan. Et Nicole Calfan, on va la retrouver après la pub. Et Nicole Calfan, on la connaît depuis, j'allais dire toujours, mais elle était dans Borsalino où elle jouait Ginette, pour ceux qui connaissent le film par cœur, et on le connaît très très bien. Et elle va nous raconter peut-être d'abord ses souvenirs de tournage avec Jean-Paul Belmondo et Alain Delon, et puis peut-être son amitié qui a perduré avec ces deux hommes. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur .fr. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Songez que c'était il y a 51 ans et c'était Borsalino. J'allais dire qu'il n'a pas pris une ride avec Jean-Paul Belmondo et Alain Delon. Et Nicole Calfan qui est avec nous. Bonjour Nicole Calfan.
Bonjour, bonjour.
Et merci d'être avec nous. On se souvient que c'est Jean-Paul Belmondo qui vous offre des fleurs, je crois, au bas d'un superbe hôtel particulier à Marseille.
Dans un kiosque, oui. Et je suis en tenue de tennis, absolument.
Exactement.
Et j'ai une voix très très fluette parce que je ne fumais pas. Et une diction parfaite parce que j'étais à la Comédie Française à ce moment-là. Voilà.
Alors, ce qui est étonnant, je regardais votre filmographie, c'est quasiment votre troisième film, en fait, Borsalino. Et vous êtes projeté dans un film mythique avec deux stars de cinéma. Comment s'est passé le tournage? Quels souvenirs vous avez gardés?
D'abord, le premier film, c'était Pierre et Tex. J'avais bien démarré quand même,
oui,
avec Le Grand Amour. Le Grand Amour m'a apporté l'attention de Delon et de Belmondo. Et en fait, j'étais comme une groupie, j'étais une jeune pensionnaire. Et quand je les voyais tous les deux sortir de l'eau dans la fameuse crique de Marseille, j'étais émerveillée en me disant « Mais moi, je joue la petite fiancée de Jean-Paul et Alain est producteur. » Et donc, c'était un moment tellement précieux. J'ai les images encore ancrées dans mon cœur au moment où je vous parle.
Ils sont d'une beauté d'ailleurs sidérante. Je crois qu'ils parlent, quand ils sortent de la crique, je crois qu'ils parlent de Polly, justement, qu'ils sont en train
d'imaginer. Qui est mon souteneur.
Voilà, qui est votre souteneur.
Absolument. Non, je peux juste vous raconter une jolie anecdote. C'est que je devais recevoir une gifle terrible de Polly, justement, ce catcheur qui était l'ange blanc, comme vous le savez sûrement, parce que vous savez beaucoup de choses. Et que la gifle, Delon et Belmondo en avaient très peur en disant « Mais elle est tellement menue, vous allez la foutre par terre. » Et on a essayé de faire 3 gifles fausses qui n'ont pas marché. Et à un moment donné, j'ai vu Jean-Paul et Alain préparer des glaçons. Et là, j'ai compris que mon heure était arrivée et que j'allais recevoir une vraie gifle de la part de Polly qui m'a projeté très très loin de la haie sur la plage.
Est-ce que
la gifle était réussie.
Vous serez cet après-midi aux Invalides, Nicole Calfan?
Oui, je pars dans un petit moment. Et je ne suis pas très explicite, pardonnez-moi, mais j'ai le cœur tellement serré. C'est ma jeunesse, mon adolescence. C'est le cours Raymond Girard, d'où je viens et d'où Jean-Paul Belmondo vient, où on apprenait la diction. Ce même vieux professeur adoré qui nous a formé pour le conservatoire et auquel on envoyait les cartes postales de Marseille quand on tournait ensemble.
Alain Delon sera là?
J'en suis certaine.
Vous l'avez eu ces dernières heures?
j'ai communiqué avec lui, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais voilà, c'est une famille de cinéma. Et c'est, que ce soit le casse, que ce soit Borsalino, sont des films mythiques. Et comme vous le disiez, ce sont des films qui n'ont pas pris une ride et qui m'ont faite. Moi, au cinéma, je viens de là, en fait. C'est eux qui m'ont faite.
Ben merci, merci beaucoup. Et on devine votre émotion à travers votre, à travers la couleur de votre voix et puis la pudeur également qui est la vôtre et le compagnonnage que vous avez avec Alain Delon, qui est un de vos amis depuis longtemps. Et oui. Je comprends qu'effectivement, Alain Delon tout à l'heure sera là et sa grande pudeur, ça va être beaucoup de gens vont venir vers lui, très certainement. C'est un moment qu'on attend, hein, évidemment. On attend de voir Alain Delon parce que l'un et l'autre sont indissociables, bien évidemment.
Absolument.
Depuis
absolument.
Tant d'années. Merci.
En tout cas, merci d'avoir tenu parole vis-à-vis de moi, en tout cas. Puisque je voulais pas faire d'image et je voulais juste faire entendre ma voix.
Ben, je comprends cela et effectivement, j'allais dire vos désirs sont des ordres, mademoiselle Calfan, mais c'était un plaisir en tout cas de vous avoir
au micro. Merci infiniment, un plaisir très partagé.
Et en tout cas, vous restez dans notre cœur parce que le cinéma permet de revoir régulièrement tous ces films et vous faites partie de nos, j'allais dire, de la mémoire collective des Français, forcément, lorsqu'on est dans un film qui a autant marqué plusieurs générations. Merci Nicole Calfan.
Merci beaucoup à vous.
Pascal Pro. Bonne journée. Merci. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 13h53. Jean-Alphonse Richard est là.
Bonjour Pascal.
On a les mêmes souvenirs, Jean-Alphonse, puisqu'on est à peu près de la même génération.
Je suis un petit peu plus âgé que vous, mais bah, on tient la corde.
Bon, l'heure du crime aujourd'hui.
C'est difficile de passer après Nicole Calfon.
Oui, parce que vous avez vu d'ailleurs la qualité de l'élocution. Elle a été au français, effectivement.
Mais ça s'entend, bien sûr. Une voix incroyable qu'on reconnaît immédiatement, mais c'est ça aussi. La magie du cinéma, c'est que même quand on n'a pas l'image, on reconnaît les personnages. Dans l'heure du crime aujourd'hui, Pascal, je vous propose une affaire qui, entre 2013 et 2016, a, dirons-nous, divisé, intrigué, passionné la Belgique tout entière. C'est l'affaire Westphal. C'est un parlementaire belge qui a été accusé d'avoir tué sa femme dans une chambre d'hôtel, une mort sans témoin, coupable, pas coupable. Il a été acquitté, Bernard Westphal, et il va témoigner tout à l'heure dans l'heure du crime à 14h30. Affaire, on va le voir, qui continue d'intriguer et de porter son lot de mystères en Belgique et bien au-delà. Curieuse histoire.
14h30, merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes, peut-être avant le flash de 14h, pour, avec Damien Béchiot, peut-être changer de sujet, puisque c'est le deuxième jour aujourd'hui du procès du 13 novembre. Et nous sommes avec Marc qui voulait intervenir. Je disais hier qu'il y avait dans l'opinion un sujet qui montait. On reprochait peut-être aux médias d'en faire trop, en tout cas de stariser, je ne sais pas si le mot est convenable, mais de stariser en l'occurrence Salah Abdeslam. Bonjour Marc.
Bonjour Pascal et bon anniversaire.
Eh ben merci, merci beaucoup à vous. Parce que ça me fait très plaisir parce qu'il y a beaucoup de gens qui me souhaitent mon anniversaire. Donc effectivement, ça me fait plaisir. Marc, bah, que voulez-vous dire sur le procès du 13 novembre ?
Bah, en fait, vous dites que la presse, les impressions, c'est que la presse fait des gros titres avec avec ce procès. Moi, je pense que le procès en lui-même est quelque chose qui est trop extravagant, en fait. 9 mois de procès pour alors les autres, on parle toujours du même en plus, de la même personne, mais je veux dire, cette personne-là, 3 jours de procès, ça ira bien, quoi. Voilà. Parce que j'ai pas la sensation que les familles de victimes vont avoir beaucoup de réponses grâce à cette personne. Et quoi qu'il en soit, le seul objectif, c'est de le mettre hors d'état de nuire. Et surtout qu'il n'ait pas en prison la capacité de communiquer avec les autres détenus et avec l'extérieur, pour éviter qu'il embrigade un certain nombre de personnes. Voilà, c'est ça le seul objectif. Mais le procès en lui-même, je trouve que c'est trop du star system et c'est trop...
Le star system, pardonnez-moi Marc, c'est pas le cas. En quoi est-ce du... C'est-à-dire, personne ne veut faire de M. Abdeslam une star. D'ailleurs, Jean-Alphonse, c'est la discussion qu'on a eue hier et resté dans le studio, parce que lui-même est un journaliste qui a beaucoup couvert les procès. Mais à partir du moment où vous parlez d'un tueur, d'un criminel ou d'un assassin, on peut faire le reproche que vous êtes en train de faire. Mais je ne crois pas que ce soit une volonté de stariser qui que ce soit.
Non, mais attention, hein, je vous ai pas dit que c'était le prévenu hein, qui était comme ça. Hein, c'est le procès. Hein. Si vous avez bien remarqué,
quelle serait la solution alternative ? On n'en parle pas. On ne parle pas d'un procès ?
Je vais préciser ma pensée. Je ne me mets pas du côté de la presse là. Je me mets du côté des politiques. Tout le gouvernement. S'enorgueillit de ce procès qui va durer 9 mois, où la justice française va retrouver ses lettres de noblesse, etc. Qu'est-ce qui va se passer au final? Ils vont tous avoir une peine de prison, ils vont tous aller en prison et basta, c'est tout. Il y a rien d'extraordinaire dans ce qui va se passer en fait. Et je pense que le gouvernement se sert de ce procès pour essayer de redorer en quelque sorte l'image de la justice française, et c'est là où je dis que ce procès est un truc de star system parce que ça n'a pas de sens, et même les familles de victimes qui témoignent à la télé ou à la radio, elles disent, vous savez, on n'attend rien de ce procès en fait.
Mais merci de votre témoignage et de votre opinion, plus exactement, puisque c'en était une. Merci beaucoup, Marc. On va se quitter quelques secondes pour rappeler les titres du jour. Il est quasiment 14h. Merci, Jean-Alphonse. Rendez-vous à 14h30 tout à l'heure. À tout de suite pour la suite de l'émission.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Sur les bons.
14h. Flash avec Agnès Bonfillon.
L'hommage national à Jean-Paul Belmondo débutera tout à l'heure à 16h30 dans la cour d'honneur des Invalides. Au-delà de la famille, des amis, des politiques, 1000 personnes vont pouvoir prendre place dans les coursives sans avoir d'invitation. Assister à cette cérémonie, d'où la file d'attente qui s'allonge de plus en plus, Morad Jabari.
Effectivement, de plus en plus de monde devant ce dôme doré magnifique des Invalides. Je suis avec Frédéric et je vous pose une petite question. Frédéric, bonjour. Pourquoi vouloir assister à cet hommage ?
Eh bien, pour moi, il me paraissait naturel de venir dès que j'ai su que c'était ouvert au public. Pour moi, c'était évident de venir pour rendre hommage à ce grand monsieur.
Et pourquoi ? Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Jean-Paul Belmondo ?
Eh bien, la générosité, le partage. Enfin, c'est quelqu'un de vraiment qui fait du bien, en fait. Qui fait du bien et qui continuera à nous faire du bien.
Et quel bébel vous aimez ? Le cascadeur, le macho un peu bagarreur, ou plutôt celui de la nouvelle vague ?
Alors moi, mon film préféré, c'est Le Magnifique. J'adore ce délire dans ce film où cet écrivain déjanté, Bob Sinclair. Exactement. Et moi, j'adore et j'aime beaucoup me repasser ce film quand j'ai pas le moral. Et là, je suis sûre d'avoir la banane.
Merci beaucoup. Et puis, dans cette file d'attente, Agnès, il y a des gens plus âgés, mais aussi beaucoup de jeunes qui ont à peine la vingtaine, voire moins parfois, preuve que Jean-Paul Belmondo a touché chez plusieurs générations.
Merci beaucoup. Morad Jabari en direct des Invalides pour RTL. Je vous rappelle qu'à l'issue de cette cérémonie, le cercueil de Jean-Paul Belmondo sera exposé, toujours dans la cour, afin que toutes celles et ceux qui le souhaitent puissent se recueillir. Au deuxième jour du procès des attentats du 13 novembre 2015, alors que l'audience venait de reprendre en début d'après-midi, Salah Abdeslam a pris la parole sans qu'on ne lui ait rien demandé, pour dire que des victimes se trouvaient aussi en Syrie, complètement hors de propos avec le débat en cours, très technique comme débat. Il a également dédouané certains de ses co-accusés. Ils m'ont rendu des services alors qu'ils ne savaient rien du tout, a déclaré le seul membre des commandos encore vivant, avant que le président ne lui coupe son micro. Agnès Buzyn, convoquée demain, c'est le premier développement majeur dans l'enquête de la Cour de justice de la République sur la gestion de l'épidémie de Covid-19. L'ex-ministre de la Santé risque une mise en examen. Et sur un tout autre sujet, celui qui lui a succédé au gouvernement, Olivier Véran, a annoncé ce matin que la contraception serait désormais gratuite pour toutes les filles jusqu'à l'âge de 25 ans. Aujourd'hui, en France, dit-il encore, trop de femmes renoncent à la pilule à cause du prix. Demain, le temps restera instable et changeant sur toute la France. Ce sera une alternance d'éclaircies, de nuages et d'averses. Les orages seront plus rares qu'aujourd'hui. Le soleil restera présent dans le quart sud-est, mais les températures baisseront un peu. Et ça, c'est pour tout le monde. L'après-midi, comptez de 20 à 25 degrés au nord comme au sud et de 25 à 28 degrés près de la Méditerranée. Je vous rappelle que les courses ont lieu à Longchamp à 18h20. Le 14 et non partant, voici les pronostics de Dominique Cordier. Il vous conseille de jouer le 9, le 7, le 15, le 12, le 5, le 8 et le 6. Dernière minute, le 8 American Park. Pascal Praud, c'est à vous à 14h03 sur RTL.
Merci Agnès.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
J'ai l'impression qu'on n'est pas très efficace pour trouver un chef de rang dans un restaurant du 6e arrondissement, monsieur Laurent Tessier. Je pensais que vous activeriez avec tout le service d'RTL, mais pour le moment, on n'a pas de demande dans ce sens. Raphaël est là. Bonjour Raphaël, pour parler d'Abdeslam. Vous êtes prof de droit à Clermont-Ferrand. Votre avis, en même temps, vous avez entendu ce qui s'est passé aujourd'hui.
Oui, alors d'abord bon anniversaire, c'est important. Hein.
Vous êtes gentil, hein, vraiment voilà. Vous êtes gentil.
Non, c'est normal, et
merci.
C'est franc. Voilà, alors Abdeslam, moi je dis que son attitude n'est pas surprenante, et elle est finalement un symbole de ce que ce procès va être, c'est-à-dire un procès presque pour rien. Presque pour rien. D'abord, on nous glorifie la justice française, je suis désolé de constater qu'elle met 6 ans pour organiser un procès, elle met 10 millions d'euros pour aménager une salle, d'accord ? Et tout ça dans une période où beaucoup de magistrats doivent se dire ben, de l'argent on arrive à en trouver, hein, 10 millions d'euros c'est pas rien, ça ferait du bien à certains tribunaux. Et cet individu, j'allais dire, il est comme on s'attend, enfin moi je m'attendais à ce qu'il soit, on ne pourra rien attendre. Nous sommes dans un choc de civilisation, de culture, cher Pascal, vous avez lu comme moi Samuel Huntington, il avait raison à 100%.
Oui, alors Huntington, qui est cité d'ailleurs dans le dernier livre de Éric Zemmour, qui va sortir le 16 septembre et que j'ai parcouru hier soir, j'en ai lu une centaine de pages, et effectivement, il est abondamment cité. Alors, c'est un sociologue, philosophe, je ne sais pas comment l'écrivain, qui.
Oui, sociologue, grand sociologue, c'est sûr.
Oui, bien sûr.
On va à nouveau lui reprocher plein de choses à Huntington, d'être cité, etc., d'être juif, etc. Alors, donc, bon, bref.
Non, mais la difficulté, quand vous dites de choc de civilisation, c'est toujours pareil, c'est la généralisation.
Les djihadistes, beaucoup d'islamistes, vous savez, je vais vous dire une chose. En France, je suis persuadé qu'il y a au moins 70% des islamistes qui sont au soutien ou qui ne condamnent pas ce type-là.
Mais oui, mais sans doute avez-vous raison.
Alors, tant qu'on frappe à la guerre, Pascal.
Mais ce sont les islamistes radicaux sont
mais
une
tous les
poignée.
Islamistes sont radicaux. Non, tous les islamistes cachent les terroristes. Je suis désolé.
Mais qu'est-ce que vous appelez tous les islamistes? Oui, tous les islamistes sont radicaux. Mais les musulmans ne sont pas islamistes radicaux.
Non, mais tous les musulmans s'inspirent d'un texte qui est
mais
le Coran.
Mais pas tous les musulmans.
Non,
pas
mais
tous
si les musulmans s'appuient sur le Coran. Ils appliquent leur religion sur le Coran.
Mais
le Coran, c'est leur
mais
religion.
Je connais des amis musulmans. Je connais des amis musulmans qui savent, et même c'est la majorité, prennent de la distance sur l'écriture du Coran et ne prennent pas, au pied de la lettre ce qui est écrit dans le Coran. C'est ça qui est difficile dans ces discussions.
Je suis pas persuadé que ça soit une minorité qui agissante. Bien sûr que tous les djihadistes terroristes comme Abdeslam, il y en a de plus en plus en France. Il y en a de plus en plus qui sont dans la qui se convertissent.
Mais
et qui
qu'il y ait une radicalité, nous sommes tous d'accord qu'il y ait des
une radicalisation même.
Une radicalisation évidemment,
sûr,
mais je vous
sûr.
Répète et c'est aujourd'hui par exemple. Lorsque tu travailles dans des rédactions, tu travailles avec des jeunes gens parfois qui ont 25 ans, 30 ans, etc., qui viennent de milieux différents de ceux dans lesquels le journalisme baignait il y a 30 ans. Il n'y avait pas de gosses des cités il y a 30 ans. Bon, maintenant, ce sont. D'ailleurs, je ne leur demande pas s'ils sont musulmans ou pas, mais ils sont parfois d'origine arabe. Et je peux imaginer qu'ils sont musulmans ou que leurs parents le sont, mais. Je suis convaincu qu'ils pratiquent une religion avec la distance qui convient et qu'ils ne lisent pas à la lettre le Coran en essayant d'appliquer les préceptes qui y sont écrits et qui ont été écrits je ne sais quand.
Certes, moi aussi j'ai de bons amis musulmans, mais j'allais dire que moi, ce que je leur reproche, par exemple, c'est que quand
c'est
il y a des événements comme ça, des événements de terroristes, etc., etc., je suis désolé de vous dire, on n'en voit pas beaucoup dans les rues. Moi, je leur dis, j'en connais, descendez, défendez les valeurs de la République dans laquelle vous êtes parfaitement heureux d'être intégré, dans laquelle vous êtes parfaitement heureux, de laquelle vous êtes parfaitement heureux de profiter. Et vous savez ce qu'ils me répondent, la plupart d'entre eux ? On irait bien, mais on a peur. C'est normal, ça ? Alors, quand vous disiez tout à l'heure, des auditeurs disaient dans les banlieues, l'armée, etc., eh bien, je pense que face à ce genre d'individus, il va falloir arriver à un moment, puisqu'on parle de guerre, et la guerre, quand il y a de la guerre en face, on prend pas un pistolet à eau.
Ben merci en tout cas Raphaël, parce que c'est intéressant notre échange et je le répète, la difficulté c'est de bien comprendre que ceux dont on parle reste une poignée d'individus qu'il faut combattre, qu'il faut évidemment ne pas accepter sur le sol de France, mais que la première victime souvent, je vois à Marseille, la première victime des bandes, des drogues ou des intégrismes, c'est d'abord ceux qui y habitent là. Et c'est ce que disaient les maires, d'ailleurs, lorsqu'elles ont rencontré Emmanuel Macron l'autre jour. C'est elles les premières victimes, souvent. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.com. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Alors cette affaire d'emploi qui nous étonne quand même, il y a 1 million d'emplois en France qui ne sont pas pourvus alors qu'il y a 3,5 millions de chômeurs. Donc c'est sidérant quand même. Donc on va être avec Michel, tiens, qui est chef d'entreprise. Bonjour Michel.
Oui, bonjour Pascal.
Vous avez une entreprise de combien de personnes ?
Ah, moi, c'est une petite entreprise de 12 salariés, mais je travaille pour le particulier, le professionnel, en l'occurrence les promoteurs, et ça fait des années que j'ai cette problématique-là. Donc, effectivement, culturellement, en France, depuis 40 ans, les métiers du bâtiment en général ne sont pas très glamour, et donc sont plutôt décriés. Donc, forcément, on n'a pas envie de faire former ses enfants là-dedans. Alors que quelqu'un qui va dans cette formation, et notamment sur des métiers d'électricité, de la plomberie, etc., font des rémunérations nettes qui sont de 5, 6, 7, 8 000 euros par mois. Ce qui sont des salaires qui sont énormes.
Il faut combien de temps pour former un plombier ? Parce que je me suis fait cette même réflexion. J'ai testé. J'étais cet été à la boule. Je peux vous dire que un gosse de 22 ans ou 23 ans qui se met à son compte à la boule comme plombier, il va avoir du job. Hein.
C'est ça. Et il aura ce salaire-là.
Je peux vous dire qu'il va avoir du job et il va bien gagner sa vie dans un cadre de vie extrêmement agréable. Parce qu'il n'y en a pas.
Totalement. À la boule ou ailleurs, mais effectivement, est mérité parce qu'il travaille aussi, mais mérité. Mais moi, je vois quand je suis obligé de sous-traiter parce que je ne trouve pas de salarié. Donc je sous-traite. Alors il faut savoir que la sous-traitance est très mes charpentiers couvreurs sont plutôt tunisiens marocains. Mes maçons sont plutôt turcs, arméniens ou des pays de l'Est. Les plaquistes sont plutôt d'origine portugaise. Ce qui est incroyable, c'est que quand ils ont besoin, pour prendre des chantiers, notamment chez les promoteurs en sous-traitance, ils ont besoin de main-d'œuvre. Ils appellent des copains, des familles, etc., du Portugal. Les peintres sont plutôt d'origine africaine, etc. Ils font venir des personnes qui travaillent et ils génèrent du volume de salariés ou en tout cas d'intervenants. Bon, ça c'est une réalité. C'est ce que je vis depuis des années, ce que vivent mes confrères et mes collègues. Bon, je dois rajouter que j'ai été trésorier de la chambre de métier de mon département, donc j'ai eu une implication, je dirais, aussi dans la vision globale de ce problème. Le souci qu'il y a, c'est que au niveau du chômage, puisque parlons du chômage, la question c'était, il y a 3 millions de chômeurs et 1 million d'emplois non pourvus. Aujourd'hui, il n'y a pas une différence entre la rémunération du chômage et la rémunération de salariés. Donc ce n'est pas intéressant pour un chômeur de travailler. Deuxièmement, il n'y a pas dans la formation au niveau du chômage l'obligation de se former. Bien sûr, on ne peut pas obliger quelqu'un à se former sur le métier du bâtiment s'il n'a pas envie. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait un écart significatif entre la rémunération des chômeurs et la rémunération d'un actif. Je n'imagine pas que Pôle emploi ne soit pas capable d'avoir dans leurs statistiques le nombre de salariés, ex-salariés qui ont droit aux indemnités chômage et qui ne comprennent pas pourquoi, quand on est salarié du monde du bâtiment, on n'arrive pas à trouver de poste alors qu'il y en a, ben moi je donne, j'ai la réponse. Alors attention, hein, elle n'est pas politiquement correcte, ma réponse, mais je l'ai vécue. Ben c'est que quelqu'un qui vient et dit, je suis au chômage, signez-moi comme quoi j'ai eu mon entretien parce que j'ai pas envie de travailler. Il y en a énormément. Bon, sauf qu'ils ont le chômage et ils travaillent au black à côté pour avoir une rémunération complémentaire.
Ça c'est possible, effectivement. Donc vous m'avez dit.
C'est un fonctionnement inadmissible.
Vous m'avez dit plombier, c'est 3 ans.
Alors oui, parce que.
Plombier, électricien, toutes ces formations, c'est quoi? C'est CAP?
Alors c'est ça, c'est CAP, et puis il y a donc les formations et les stages à l'entreprise. Il y a également donc, par contre, il y a, moi je reçois régulièrement des jeunes qui ont envie de venir devenir se former en entreprise. Le problème, c'est que pour former efficacement, quels que soient les métiers à l'entreprise, il faut consacrer du temps. Il faut, autrement, c'est une formation qui serait inefficace. Donc au-delà de la volonté, il faut pouvoir déléguer à l'intérieur d'une équipe et à l'intérieur d'un maître d'apprentissage. Il faut avoir la volonté éthique, je dirais, de former. Et beaucoup forment, et quand les gamins sont formés, eh bien, ils partent parce que ils ont utilisé l'entreprise ou bénéficié, je dirais, de la formation de l'entreprise pour aller ailleurs, parce que pour quelques euros de plus, on leur a fait miroiter l'intérêt de quitter l'entreprise formatrice. Donc ça aussi, c'est désagréable pour les entrepreneurs qui ont formé, parce qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir un retour sur, je dirais pas investissement, parce que ça serait un petit peu trop de machinerie, un retour sur un investissement intellectuel, sur un projet d'amener un gamin sur ce qu'il avait envie d'être à ce qu'il a envie et ce qu'il a été et ce que l'on a fait pour faire en sorte. Mais ça fait 40 ans que l'on parle de ce problème. Ça fait 40 ans qu'il existe et il n'est pas prêt. Et je suis, malheureusement, j'ai 63 ans, je ne suis pas un pessimiste né, mais concrètement,
ça va être difficile de trouver une solution. Bah merci Michel, je pense qu'on a compris l'essentiel de ce que vous vouliez nous dire. La page Facebook avec Olivier.
Michel nous écrit à l'instant, les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas envie de travailler, ils ne veulent pas se salir les mains. Martine complète, les métiers manuels n'intéressent pas la nouvelle génération. Pour Nicolas, s'il y avait des revalorisations salariales, ça irait mieux, ces emplois ne sont pas attrayants. Thierry lance sur notre page Facebook, la restauration et l'hôtellerie peinent depuis des années des heures impossibles et des salaires de misère. On conclut avec Ouria qui écrit « Trop de patrons exploitent leurs employés ».
On va marquer une pause à 14h17. Merci.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Économisons-la.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Il nous reste quelques secondes avec Thomas, peut-être, pour évoquer ce sujet qui nous surprend. Un million d'offres d'emploi qui ne sont pas pourvues. Bonjour Thomas.
Oui, bonjour Pascal, merci de me faire passer.
Je vous en prie.
Moi, sur ce sujet, moi j'ai une théorie qui est assez simple, c'est la théorie des 3M quand un travail ne trouve pas de salarié. C'est salaire de merde, horaire de merde, ambiance de merde, il faut être concret.
Oui, mais non, mais là, c'est pas vrai. Par exemple, rue du Cherche-Midi.
Je me permets, je suis un peu direct, je sais.
Bah oui, mais c'est direct. Là, je sais pas si François est encore là, mais François, il vous écoute. Il cherche un chef de rang depuis de nombreuses journées. Le salaire, il n'est pas comme vous le dites, puisque 1700 euros net, c'est pas un mauvais salaire. Horaire, c'est 9h30, 16h30. Et. Bah, à Paris, oui, mais pour commencer peut-être, par plus exemple, du pourboire en plus.
Que... Je vais demander, vous par exemple, vous ne gagnez pas 1700 euros net par mois. Vous voyez ce que je veux dire? 1700 euros net à Paris, c'est compliqué. Ensuite, je me permets juste de faire une petite réflexion. J'ai déjà pu travailler dans plusieurs restaurants étoilés, j'étais plongeur. Ceux qui passent aux radios, ceux qui passent à la télé, c'est le haut du panier. Ceux dans la grande majorité qui posent problème au niveau des restaurateurs, ils vont jamais passer à la radio et dire.
Bon, François peut vous répondre parce que c'est à François de vous répondre. Il est mis en cause. François avec Thomas.
Non, moi je le mets pas en cause du tout.
Vous dites c'est un horaire. Vous dites c'est un salaire. Je vais pas répéter. Bon, François vous répond. François vous répond. Thomas. François vous répond.
Oui, alors moi, je vais répondre simplement à Thomas que j'ai un gros défaut dans mon restaurant, c'est que je veux faire de la qualité. Et c'est-à-dire que je veux travailler des produits bruts. Il y a un long débat, j'ai écouté toutes ces conversations qu'il y a eu, que ce soit sur la sécurité ou autre, en fait, tout est lié. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on baisse les charges pour les entreprises qui emploient des employés, qui travaillent avec des circuits courts, qui travaillent des produits de saison, donc moins de soucis avec la sécurité sociale, avec des gens qui mangeront plus sainement. Si on a une formation qui est plus adaptée, avec des gens qu'on ne forme pas pour des bacs plus 10 à être directeur d'hôtel avant de passer par le métier de la salle, si on fait du service militaire effectivement pour redonner une éducation un peu à tout le monde et plein de choses, on va retrouver des valeurs en France et ça passe aussi par nos métiers. Nous, on a un métier de service, effectivement. On a un métier où on sait à quelle heure on commence, on ne sait pas à quelle heure on finit. Vous avez certainement, monsieur, été client dans un restaurant. Et il y a des jours où vous ne réservez pas, il y a des jours où vous allez passer un peu tard. Eh bien, il faut bien vous servir. Il faut bien être là pour vous servir, comme dans les métiers des hôpitaux ou autres. Oui, bien sûr.
Les heures de nuit, elles sont majorées ou pas?
Les heures de nuit sont... Nous, on a des heures supplémentaires. On paye les heures supplémentaires.
Non, c'est pas la question. Je m'explique. Travailler dans une grande surface, les heures de nuit, c'est 21h, 6h du matin, elles sont majorées à 125%. C'est-à-dire qu'au lieu d'être payé 10 euros de l'heure, je suis payé 22,50 € de l'heure. Moi, ça m'est arrivé, mon boulot de plongeur dans un restaurant étoilé, je ne citerai pas le nom. Normalement, je dois terminer à 23h, je pourrais terminer à presque 2h du matin. Les heures ne sont pas majorées en heures de nuit. Donc, à un moment donné, moi, ça ne me dérange pas de travailler jusqu'à 2h du matin. Mais si vous faites travailler des salariés jusqu'à 2h du matin et que vous les majorez en heures de nuit, vous trouverez du monde. Mais
bon, Thomas et François, comme ça va être l'heure du débrief, merci de cet échange tous les deux. J'ai bien compris l'état d'esprit de Thomas et je peux le comprendre. D'ailleurs, on peut tout comprendre. C'était intéressant également d'écouter François. Et maintenant, c'est le débrief avec Laurent Dessier.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Un fourgon de police attaqué hier en fin d'après-midi dans le quartier des Tarterets à Corbeil-Essonnes. Les policiers se sont retrouvés face à une trentaine de jeunes. Ils ont été visés par des tirs de mortier, des jets de cocktails Molotov. Le fourgon a dû faire marche arrière. Alors les policiers sont-ils impuissants face à ces délinquants? Comment vivent-ils cette période? Frédéric, commandant de police, est venu témoigner.
Ils sont là pour se faire du flic. Sauf que notre métier de base n'est pas là pour servir de punching ball à une frange de la population qui est en mal de quoi? D'éducation, de respect des règles, du vivre ensemble.
Hamid a été policier. Pour lui, il n'y a qu'une seule chose à faire.
Moi, il n'y a plus de cadeaux à faire. Maintenant, c'est l'armée qu'il faut sortir dans ces banlieues-là. Dans ces banlieues et ailleurs.
Et sinon, vous aviez une envie, Pascal, aujourd'hui.
J'ai pris un engagement de jouer au Julien Courbet.
Alors allons-y tous ensemble. Jingle, Damien Béchu, notre réalisateur.
Ça peut vous arriver avec Pascal Praud.
Wow, et vous êtes lancé dans une mission avec François Restaurateur qui cherche un salarié.
On devrait quand même trouver d'ici 14h30. Appelez-nous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche un job à 1 700 € net dans la restauration qui est qualifié et qui peut aller travailler rue du Cherche-Midi?
1 million de postes à pourvoir en France, dont celui proposé par François. Nous n'avons eu aucun retour pendant l'émission. Quoique, nous pouvons peut-être, François, vous envoyer notre monsieur Facebook, Olivier, monsieur Boubouk, un jeune homme très sympathique.
Joyeux anniversaire, Pascal.
Vous êtes très gentil.
Oh, comme c'est mignon, c'est touchant. Sauf qu'Olivier ne veut pas en rester là. Il veut tenter une petite blague entre générations. Damien Biéchaud lui a pourtant tenu ses propos en régie.
Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Eh ben alors, il va se lancer. Mesdames, messieurs, c'est un nouveau programme exceptionnel que nous vous offrons sur RTL. Tout le budget de l'émission y est passé.
La blague du jour d'Olivier Guémec.
Hop. Vas-y, mon petit. Mais attention, danger.
Un iceberg droit devant! 57 ans, je vais être très honnête, je pensais que vous étiez un poil plus âgé que ça quand même.
Oui,
Pascal.
Bien sûr, vous pensiez que j'avais 82, 83.
Oui, dans ces eaux-là.
Moi, quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous êtes plus jeune en revanche.
Bam, 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 le coup droit destructeur, une réaction mi-Pascal sur Olivier. Eh ben oui, pour le stopper. En même temps, notre monsieur Boubou qui était influencé à par les propos de Julien Courbet, s'il vous voyait plus âgé, bah, c'est pour cette raison.
Alors, de quoi s'agit-il? 12h30, on appelle, on débat,
de
on parle de
quoi s'agit-il? C'était ce que disait le maréchal Foch lorsqu'il entrait dans une pièce.
Oui, mais
de
moi, je ne l'ai pas connu, vous, oui.
Non.
Alors, dites-moi.
Tout tout s'explique enfin pour notre monsieur Boubou. Quel est le débrief pour aujourd'hui? C'est terminé. C'est un grand jour, le 9 septembre, mesdames, messieurs. C'est l'anniversaire des Gentlemen, des Lovers, Pascal Praud et un certain Rolio.
Ah, il est du 9 septembre.
Mais comme vous.
C'est pas vrai.
Mais oui.
Bah, je pense que c'est le seul point commun que j'ai avec lui.
Un autre gentleman, c'est Jean-Alphonse Richard.
Hey, salut, c'est moi.
Oh. Ah, bon, Julien Courbet n'a pas de soucis à se faire.
Non, il n'a pas de concurrence.
Ouais, parce que manifestement, j'ai pas été aussi brillant et efficace
mais
que
lui.
On n'a pas trouvé, voilà. C'est quand même extraordinaire, on n'a pas trouvé d'emploi pour un chef de rang à 1700 euros. Monsieur Richard, on vous laisse la maison.
Je la prends tout de suite.
Avec l'heure du crime.
Allons-y, l'heure du crime.
À demain.